Une autre personne enfin, un autre participant actif du laboratoire Espace Cerveau et c'est lié à votre intervention, Jeanne. Il s'agit de Benjamin Blacard, qui est artiste et qui.
Oui, bonjour à tous et toutes. Bah écoute, on arrive un peu à la fin, donc il y a plein de choses hyper intéressantes qui ont été dites. Donc du coup, je vais juste me concentrer sur une question pour Jeanne, qui est à propos en fait du yoga, qui me semble. Vous m'entendez?
Très bien, très bien.
Oui, ok. Qui me semble en fait assez importante. Par rapport justement dans sa relation à l'écoféminisme en tant que bah, quelque chose qui permet de se recentrer sur soi, de refaire son rapport à soi et au monde, de se faire un peu des injonctions qui pèsent sur le corps. Et du coup, je voulais savoir un peu quel avait été en fait votre cheminement entre les deux. Aussi un peu ce que vous enseignez, la manière dont vous l'enseignez.
D'accord, merci. Je précise, merci Benjamin, parce que c'est justement une question, le yoga qui revient dans plusieurs échanges.
D'accord. Alors, déjà, je dois commencer par confesser que je n'enseigne pas vraiment le yoga. En fait, enfin bon, bref, c'est anecdotique, mais juste par honnêteté, c'est important pour moi. En fait, mon éditeur a voulu mettre sur la quatrième de coup professeur de yoga, et c'est vrai que j'aurais dû avoir ma certification quelques semaines après la sortie du bouquin, mais confinement oblige, ça n'a pas eu lieu, donc je ne suis pas certifiée. Je devais mettre en place des cours de yoga dans le. En fait, moi, je n'ai pas envie de faire des cours de yoga. Dans un studio de centre-ville où je fais payer 20 euros le cours des minettes en legging, même si moi-même j'ai fait ça. Donc, je voulais mettre en place des cours au sein du lycée où j'enseigne à Marseille, donc gratuit, ouvert à tous les élèves, etc. Et protocole sanitaire oblige, c'est pas possible en fait. On ne peut pas faire des activités sans masque. Donc, pour l'instant, voilà, je suis pratiquante. Mais voilà, mon enseignement, enfin, j'ai donné que des cours principaux, donc je ne peux pas vraiment me prononcer sur cette question-là. En revanche, mais ce n'est pas lié au yoga, donc je vais vite, mais sur ma manière d'enseigner la philo. Donc moi, je ne me définis pas comme écoféministe. Je m'intéresse énormément à cette question. J'ai des affinités politiques, théoriques avec le mouvement, mais voilà, je ne m'étiquette pas écoféministe. Il n'empêche que forcément, cette recherche m'a profondément transformée, et que notamment dans mon enseignement de la philo au lycée, ça a énormément changé mes manières de faire, à la fois le contenu de ce que j'enseigne, en termes de quels auteurs et quelles autrices on étudie, quel thème, quelle pensée non occidentale j'essaye de faire étudier à mes élèves, etc. Et aussi dans mes pratiques de qu'est-ce que j'évalue? Est-ce que je continue à faire que de l'évaluation du travail écrit individuel des élèves, c'est-à-dire concrètement, je note la catégorie socio-professionnelle des parents, ou comment faire en sorte de faire travailler en groupe, d'évaluer de plein de façons différentes pour parasiter la logique qui fait que sinon, en fait, c'est complètement inéquitable, etc. Voilà donc pour la partie enseignement, mais qui en fait est l'enseignement de la philo. Ensuite, pour le yoga, en fait, bon, ça serait. C'est très. En fait, pour le yoga, c'est un peu comme pour l'écoféministe, c'est-à-dire on ne peut pas dire le yoga, ça serait les yogas, tellement il y a une immense diversité. Si je veux schématiser, on pourrait dire que dans le yoga classique, il y a une tendance ascétique qui est assez difficilement compatible avec l'écoféminisme, puisqu'il s'agit plutôt d'échapper au cycle des réincarnations et donc d'échapper à son corps physique, de ne plus avoir besoin de manger ni de respirer, de se rendre indépendant de la nature et de l'incarnation, alors que dans l'écoféminisme, il y a plutôt au contraire l'idée de cultiver les interdépendances. Et cultiver notre incarnation. Donc, ça serait plutôt enfin, la lignée dans laquelle je m'inscris, c'est plutôt une autre lignée qui est la lignée tantrique, qui est une lignée qui, au contraire, et dont je ne suis pas la seule à faire des liens avec l'écoféminisme. Par exemple, dans un livre de André von Lisbeth, qui est un des premiers occidentaux à s'être formé au yoga en Inde et avoir écrit des livres sur la question en français, il a écrit un livre qui s'appelle Tantra, le culte de la féminité. Dans lequel il parle à la fois de la pratique et de la philosophie du yoga tantrique, Et il y a un chapitre entier où il cite plein de passages de Starhawk en disant aucun tantrika ne renierait un seul des mots de Starhawk, parce que c'est justement un yoga qui est en rupture avec le yoga classique ascétique et qui est un yoga de l'incarnation, un yoga du culte du féminin dans lequel, pour les pratiques qui sont reliées à une divinité, ça va être à la Shakti, donc à la déesse, plus qu'au dieu. Et ce sont des pratiques qui visent à nous faire prendre conscience de notre position entre ciel et terre, et à nous relier aux sensations, au corps, et au cycle. Puisque, par exemple, quand on fait des choses aussi... par exemple, tous les gens qui font du yoga... en Europe, ils font des salutations au soleil. Et souvent, on fait ça comme ça. Mais en réalité, si on prend au sérieux la salutation au soleil, c'est assez fou, finalement, de faire une salutation au soleil, parce que ça veut dire Surya Namaskar. Namaskar, c'est pas juste « Hey, salut !» mais c'est vraiment une pratique, c'est une prière païenne, en fait. C'est un rituel qu'on fait faire quotidiennement à des gens de célébration, de remerciement, de pratique de gratitude vis-à-vis du soleil en tant que source de vie, source de lumière, source de la croissance des plantes qui nous nourrissent, etc. Donc, je ne suis pas sûre que tout le monde ait conscience en faisant des salutations au soleil de ce qu'il est en train de faire réellement. Mais il y a aussi toute cette manière de cultiver son insertion dans des cycles naturels. Tout à l'heure, je parlais de remettre la mort dans le cycle de la vie. Souvent, une séance de yoga va se terminer par Shavasana, qui s'appelle la posture du cadavre, où on mime, où on essaie d'incarner la mort, et donc sentir son corps qui se dissout dans la terre, dont les limites s'effacent, qui fond dans la terre. Et Shavasana est suivi de position fœtale sur un côté, donc on mime la mort puis la renaissance. Donc en ce sens-là, il me semble que cette lignée-là de yoga tantrique, ou en tout cas cette intention-là, a des liens clairs. Enfin, que pour moi, c'est une pratique qui est une manière de cultiver dans son corps la philosophie. En fait, pour moi, c'est une philosophie mise en œuvre corporellement et qu'on peut lier à l'écoféminisme. Mais voilà, ça dépend de dans quelle intention on...